Sur les chemins de la création, une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout, il y a ceux qui apportent seulement leur métier, et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime les choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde, ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste.
Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.
Et bonjour, bienvenue dans l'émission sur les chemins de la création. Nous sommes ensemble aujourd'hui sur Divergence FM. Je suis accompagnée d'Elsa, qui est souvent en ma compagnie dans cette émission. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Ruby, qui est également présente ici dans les studios de Divergence.
Bonjour.
Bonjour. Alors Ruby, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais?
Alors, quelle question, qui je suis, j'essaie de comprendre. Et aujourd'hui, je pense que j'ai envie de me définir poète. Et je fais de la poésie à travers surtout les images, et des textes, des performances et des collages. Mais comment je survis dans cette jungle, c'est plus en faisant de la vidéo.
De la vidéo,
des clips de musique, des tableaux vivants et des courts-métrages. Mais les courts-métrages, c'est difficile pour avoir des financements et je suis encore en dette pour les dernières que j'ai réalisées parce que c'était une autoproduction.
Ouais. Mmh. Et du coup tu, l'image, elle est centrale. On peut dire que tu es poète, mais que tu réalises aussi
Non, je réalise, bien sûr. Je dis poète parce que la poésie, c'est la chose que j'ai à communiquer, en fait. C'est quoi mon message?
Okay.
C'est la poésie, c'est-à-dire d'exprimer une sensation à travers un symbole. Et je n'ai pas oublié, j'ai oublié de dire, voilà, que mon travail est beaucoup centré sur les rêves. Okay. Et les rêves sont très symbolistes, souvent très poétiques. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai fait mon premier rêve lucide.
Wow.
Et je l'ai contrôlé, j'en suis assez fière.
Oh, t'as envie de nous le partager ou pas?
Oui. Oui, en fait, j'étais devant une école et d'un coup, il y a mon ami Nicolino de Sicile, je suis sicilienne, qui arrive, il me dit bonjour, je dis hey, salut. Mais après, je me dis, mais c'est pas possible que tu sois là. Ça, c'est un rêve. Et son image a changé d'un coup. Et donc, j'ai dit, ça y est, c'est un rêve. Je vais m'envoler. Et j'ai commencé à m'envoler. Tout le monde me regardait. Et c'est là que je me suis réveillée. Mais je volais un petit bout.
Wow.
Mais je me rends compte comme ça que c'était un rêve. C'était la première fois. C'était le 31 décembre. Souvent, le 31 décembre, je fais des rêves. Une fois, j'ai fait un rêve clairvoyant. J'ai rêvé d'une ellipse solaire. Sans que je le sache, 9 jours après, il y a eu une ellipse solaire. Voilà, ça, wow. C'est la top liste.
Donc, le rêve, il est vraiment présent dans ta vie perso et dans ton travail
vrai,
partout.
Pas beaucoup. Okay. Dans le sens, oui, je fais des rêves confus, mais après, je rêve toute la journée, en vrai.
Tu rêves de quoi toute la journée?
En fait. Comme souvent, j'écris des dossiers pour avoir mon financement des clips pour le CNC, CNM, etc. Et là, par exemple, j'ai écouté une chanson magnifique de Melissa Wickart. Et ça parle de construire un intérieur, une chanson contre l'intelligence artificielle et tout ce qui se passe. Et ces stérilités d'âme qui est en train de se créer. Et là, je rêvais d'une fille qui sortait avec un robot et que son copain, je rêvais lucidement, aujourd'hui à 10h en face chez moi, je pensais à une fille qui construisait une petite maison avec un robot Et ses seuls copains, c'est une théière, une chaussure et... c'était qui les troisièmes? Bref, je l'ai noté, mais... voilà, et en fait, avec ses copains, elle parle du fait que son copain, il n'est pas très doué au lit, elle ne l'amène jamais au resto parce qu'elle ne mange pas. Bon, bref, elle se plaigne un peu de sa relation, et je ne sais pas si c'est clair, parce que c'est vraiment un brouillon que j'écris aujourd'hui, mais c'était pour vous expliquer qu'est-ce que c'est rêver pendant la journée, je pense. J'aime bien écrire du surréalisme.
Et du coup, de ces rêves bruts, qu'est-ce que tu fais?
Des images.
Et comment tu les transformes en images?
Avec une caméra, une équipe de cinéma. Mais ça, c'est ce que je préfère. Mais aujourd'hui, il y a de moins en moins d'argent dans la culture et ça commence à devenir un peu difficile. Et difficile, j'ai remarqué depuis un an, j'en fais un peu moins. J'ai l'impression que les fonds de musiciens, les labels sont un peu au sec. Et donc, je prends aussi toute seule ma caméra. Des fois, je m'en passe de mon équipe magnifique que j'adore. Parce que quand même, ce travail me fait souffrir parfois de solitude parce que je suis là comme un artiste à rêver dans mon coin. Je préfère quand il y a des équipes avec moi, mais bon. C'est tellement vital pour moi de réaliser que des fois, il faut que je le fasse toute seule.
Et peu importe les moyens, des fois, il y a des moyens, des fois, enfin, humains, financiers, etc. Des fois, il n'y en a pas et tu...
Voilà, de toute façon, il n'y en a pas et...
Tu y vas quand même
parce que... Et je rencontre, par exemple, là, je viens de réaliser, de monter, parce que j'avais pris des images l'année dernière, un court-métrage sur une femme qui s'appelle Marguerite. Ça s'appelle « Les sept robes de Marguerite ». Et en fait, cette femme exceptionnelle, elle pèse beaucoup. Elle n'arrive pas à se lever. Mais tous les jours, elle change de tenue. Elle se maquille. Et du coup, j'ai filmé ça. Et voilà, ça m'a fait du bien. J'apprécie beaucoup ces nouveaux courts-métrages. Mais les courts-métrages ne sont pas visibles parce que... voilà, mon travail est sur internet, mais les courts-métrages, je les envoie au festival, donc il y a un mot de passe et tout ça. Donc,
Ok. Et tu disais que tu rêvais de façon consciente et de journée, une chaussure, une théière. Est-ce que les objets, ils ont une importance dans ton rapport à la création? Est-ce que ils ont une place particulière ou...
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est bien vu parce qu'un des courts-métrages qui a plus marché dans ma filmographie, c'est Pyjama Suicide, que c'est des pyjamas qui prennent vie et se suicident. Ben, les objets sont une partie de nous, c'est une espèce d'extension. Il y a plein d'images rhétoriques qui se basent sur les objets. Et, là, comme ça, je n'ai pas la figure rhétorique. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est drôle aussi. J'aime bien quand on met des caractéristiques humaines aux objets et vice-versa.
Carrément. Et est-ce que tu saurais... nous dire, te souvenir, quand est-ce que la création, elle entre dans ta vie? Est-ce que c'est tard? Est-ce que c'est quand t'es petite? Ce rapport-là aux choses et à en faire quelque chose et à entrer en process pour créer, quand est-ce que ça t'arrive?
Ben, en fait, moi, je suis née en Sicile, d'une famille pas riche du tout. L'histoire de ma famille est assez dure. Et en fait, ma liberté est arrivée un peu quand je suis arrivée en France. J'aime beaucoup ma famille, c'est pas ça. C'est vraiment que c'était difficile de me penser en tant qu'artiste quand j'étais en Sicile. Et dès que je suis arrivée en France, bam, voilà, j'ai commencé à réfléchir à plusieurs choses. J'ai rencontré, tous mes amis étaient des artistes. Et une nuit, je suis rentrée et j'ai eu une idée de scénario. Et à partir de là, c'est parti. Et quand j'ai réalisé mon premier court-métrage, j'ai dit « Waouh, j'ai envie de faire ça pour toujours. » Mais c'était déjà c'était un peu tard, je trouve, par rapport à Spielberg, à tous ces réalisateurs. Non, mais tout est dit, bon, j'ai commencé trop tard, c'est futur pour moi. Mais on s'en fout. Oui. Il faut créer.
Si c'est une nécessité, peu importe. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard.
Mais on n'a pas tous les mêmes possibilités.
Exactement.
Aussi, pas seulement financières, mais spirituelles.
Carrément. Quand tu dis c'est arrivé un peu tard, du coup, tu situerais vers quel âge ?
J'avais 24 ans.
Ok.
J'avais 24 ans. Et aussi, par exemple, quand je fais une école de cinéma à Toulouse, aussi, je me sentais la plus vieille de la classe, etc. Parce qu'ils avaient 20 ans. Et moi, j'avais plus de 24 ans à l'époque. J'en avais 30, presque. Et donc, voilà, je sais pas, le système, tout fait l'âge, tout le monde pense à cet fichu âge, c'est comme si on te met des bâtons, mais aujourd'hui d'ailleurs, je me sens toujours âgée, et c'est aussi nous, les femmes, je pense qu'on en souffre plus que les autres, mais ma fertilité artistique n'a jamais été aussi haute. Je produis beaucoup. Je sens que mon artiste mûrit, grandit et rajeunit à la fois.
Tu as dit quelque chose qui était très très joliment dit, c'est tu as parlé de fertilité artistique.
Oui.
Du coup, qu'est-ce que c'est pour toi et comment ça vient ? Qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de toi ?
Ben, si vous voulez, par exemple, ce matin, quand j'ai eu l'idée, très brute pour l'instant, mais cette fille qui vivait dans un monde un peu parallèle où son ami c'est un robot et ses copains c'est une chaussure, une théière, un autre objet. Dali avait la même... Pardon, je ne veux pas me comparer à Dali, hein, s'il vous plaît. Mais c'est le seul qui est Franco Battiato, un chanteur sicilien, un compositeur sicilien. Ben, ils ont exprimé la même chose. C'est une espèce d'orgasme intérieur, d'orgasme... C'est vraiment une sensation de plaisir physique quand tu as la bonne idée, quand tu fais... Tu prends cette décision artistique même dans un montage de mettre Roche à la place de l'autre. C'est en vrai, c'est la seule chose qui me donne du plaisir et de la paix. Et en fait, quand c'est pas fertile, c'est quand t'as que des idées de merde. C'est pas fertile. Alors que fertile.
Voilà. Et comment tu... Quand tu as cette bonne idée qui te donne ce plaisir-là, comment est-ce que tu le fais germer ? C'est quoi tu vas passer par quel processus ?
Mais c'est un processus hyper rapide, rapide comme un orgasme. C'est pam, 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 en 15 secondes, le scénario est fait. Et le scénario est fait et c'est après que je le sens, c'est ah voilà. Et ça réfléchit... les dernières décisions de ma vie d'une façon un peu transformée, comme dans un rêve. Mais est-ce que j'ai répondu ? J'ai oublié ce que j'ai dit.
Oui, on parlait de la fertilité artistique.
Oui, oui, ça je me rappelle.
Et du coup, oui, tu dis que tu décris ça comme une espèce de fulgurance, en fait.
Oui.
Tu disais que tu t'étais jamais autant senti... fertile, artistiquement.
Oui, bien sûr.
Et du coup, c'est cette espèce de truc où tu n'as besoin d'être des heures en recherche, de la bonne idée, etc. Enfin, dis-moi si je traduis bien, mais et que c'est une espèce de fulgurance comme ça qui t'attrape et que l'essence de l'œuvre, elle te vient comme ça, comme un orgasme hyper... rapide, surprenante, ou je sais pas...
Oui, surprenant, ça...
Et c'est après que tu vas venir travailler ce...
L'idée, après, je la travaille minutieusement, bien sûr.
Et c'est quoi ton processus pour la travailler minutieusement ?
Ben, je m'assois, Et je reste... si c'est un morceau de musique, je l'écoute vraiment beaucoup, 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 beaucoup de fois, de suite. Et aussi, je fais des recherches. Hein. Kubrick, il étudiait 80 livres avant d'un film. Moi, ce n'est pas ça. Malheureusement, je ne fais pas partir de cette belle génération intellectuelle. Mais je fais des recherches sur les nets. Je prends des livres de poésie. Voilà, je fais ma recherche.
Et petit à petit, ça se construit et ça t'amène... ça se construit avec du concret, des recherches, des gens, une équipe, ou pas,
bien
selon...
bien sûr.
Mais ça vient...
bien sûr.
C'est un élément, plus un élément.
Il y a une espèce de magie aussi, tout autour, qui se combine, comme si les destins s'organisaient pour que ça ait lieu.
Il y a quelque chose qui se fait tout seul ou en plus de toi, ton travail d'articulation?
Oui, il y a quelque chose qui se fait tout seul. Oui, c'est la magie. Et moi, je l'appelle les dieux du cinéma.
Est-ce que tu lui parles parfois quand...
Si, surtout pendant les tournages.
Dieu du cinéma, là, on a besoin de... Oui, qu'il n'y ait pas de voiture qui passe. Pendant la prise de son.
Que la régie fonctionne bien.
Mais comme je fais beaucoup de clips, j'ai pas beaucoup cette inquiétude. Mais oui. Mais d'ailleurs, j'ai envie de me remettre au son, d'écrire des dialogues, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de dialogues dans les rêves. Mais c'est mon prochain défi.
Des rêves avec du dialogue.
Non, et mais lucide, peut-être, peut-être aussi. En vrai, des fois, ça me frustre. J'ai envie de passer à un autre format. J'ai envie de me surprendre. Parce que surprendre pour son propre cerveau, c'est aussi un des buts de l'artiste. Et là, j'ai envie de me surprendre en écrivant. D'ailleurs, j'ai une idée déjà. Et il faut que je trouve les acteurs et que j'écrive aussi.
Comment tu trouves tes acteurs? C'est important pour toi?
Ah oui, c'est très important. Mais d'ailleurs, dernièrement, j'ai connu une actrice qui a pleuré sur place. Ça m'a. Sans que je lui demande, incroyable, Ambre. Elle s'appelle. Mais c'est très dur de trouver des bons acteurs. Moi, je trouve que les acteurs, à part l'American System, ils jouent très mal.
Ah ouais?
Ah oui, ça joue mal, ça joue mal.
Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Hein?
C'est quoi qui te...
Mais ils jouent mal, j'y crois pas, en fait. J'y crois pas. Par exemple, les cinémas italiens, je vois pas des acteurs. Ça se voit que ça... C'est pas crédible. C'est pas crédible et ça m'énerve, en fait.
Tu penses que c'est...
Mais les Italiens, par exemple, d'aujourd'hui, mais Marcello Mastroianni, Sofia Loren... En fait, je pense qu'après Berlusconi, les cinémas en Italie soient finis. Mais bon, en France, mon Dieu, et surtout les cinémas français, ça m'ennuie terriblement. Ça parle toujours d'actualité, c'est ennuyeux. Et aussi, pareil, ils savent pas jouer.
Tu parles du cinéma contemporain français ou non, même dans les vieux trucs
Mais les vieux trucs, j'avoue, c'est un peu trop théâtral, mais bon, c'est assumé, donc ça va, j'aime bien. Ça va, j'aime bien.
C'est vrai que les vieux trucs, les vieux cinémas français, c'est trop...
Le jeu est...
C'est un autre...
Très spécial,
oui. Ouais, bon, c'est assumé, il y a un charme. Après, il y a toujours le charme du passé.
C'est le charme de l'ancien.
Est-ce que tu crois que dans 20 ans, 30 ans, quand on regardera le cinéma français actuel, on trouvera qu'il y a un charme parce qu'on sera dans une autre atmosphère?
Sûrement.
Ça se trouve.
Sûrement, sûrement. Mais est-ce qu'il y aura des cinémas, des films qu'on regardera dans 30 ans, d'aujourd'hui? Mais moi, j'arrive pas. Je sais pas. Moi, ça fait longtemps que je regarde pas un film français au cinéma. Ça... Bon, après, peut-être que je suis pas un bon public.
Du coup, c'est intéressant parce que toi, tu es sicilienne. Et tu vis en France. Et toi, est-ce que ton cinéma à toi, il serait sicilien, français, du monde, de partout, de nulle part? Enfin, comment tu te définis
Ben, je pense que mon objectif, c'est de faire du cinéma universel.
Universel.
Voilà. Que même les saintes aiment.
Trop bien.
Et au début, donc tu t'es définie comme poète. Moi, je voulais savoir, la poésie, elle se traduit comment dans ton œuvre au travers de tes acteurs, peut-être ?
Tout à fait, bien vu. En fait, je fais ce qui est appelé casting sauvage. Et par exemple, je vois quelqu'un dans un bar et c'est un coup de foudre. Le personnage, là je me rappelle, de la première fois j'ai vu Robert Beau, le plus beau de mes acteurs, qui aujourd'hui est un peu malade et il ne peut pas trop jouer. Mais par exemple, je l'ai vu avec des longues tresses argentées, pleines de bagues, des rides qui couvraient tous les visages, des yeux bleus grands, 1m90, maigres. Bref, je suis tombée amoureuse. Et en fait, là, je viens de savoir qu'il avait fait l'acteur pour Dallas et d'autres séries incroyables du cinéma français. Et aussi Marguerite, dont je parlais tout à l'heure. À l'époque, je cherchais une femme obèse pour un court-métrage que je devais faire à l'école, à Toulouse. Et dans une vitrine de la boulangerie, en rentrant chez moi, je vois une femme habillée en rose, maquillée de façon vraiment très prononcée. Je suis tombée amoureuse, je suis rentrée dans la boulangerie et je lui ai dit, je vous cherchais de partout. Ah. Et son mari a commencé à crier, ouais, c'est parfait. C'est comme si on s'est cherché. Et Robert, à l'époque, c'était pareil. Aussi une autre femme, Lisa, une trans. Magnifique, je l'ai trouvé aussi une soir par hasard, et je ne sais pas combien de petits trucs on a fait ensemble. Et voilà, et ça, c'est des personnages souvent seuls, des personnages qui ont souvent souffert, mais c'est surtout des personnages qui ne le donnent pas à voir, qui se bat en fait. Et ils sont plus heureux que les autres. Et pour moi, ça, c'est très poétique. Et c'est mes muses, du coup.
Tu tombes amoureuse de la poésie de ces gens-là.
Oui, tout à fait. Bah, après, je peux être aussi sous les charmes des acteurs conventionnels, des modèles, etc. D'une danseur, une danseuse. Je peux avoir vraiment des coups de foudre, pas que sur les personnages... un peu oublié du système, on va dire. Voilà, les personnages oubliés du système, c'est ce que je préfère, hein, que j'adore. Mais par exemple, les faire jouer, c'est un peu difficile avec du texte. Lisa, une fois, waouh, elle m'a fait vraiment galérer avec les textes. J'avais envie de la balancer.
mais finalement, tu as.
Oui, je suis arrivée, mais bon.
Mais voilà, c'est pas évident pour. Non, à chaque fois, pas de texte. Ils sont pas comédiens pro.
Oui, non, c'est pas des comédiens
pro. Et du coup, il faut arriver à jongler entre leur singularité de personnage dans la vraie vie et leur singularité de personnage sur le plateau aussi. Ouais. Comment ouais, ça doit être un exercice, quoi.
Je leur donne leur rôle. Ils ont pas. Je leur donne leur rôle. Aussi, j'aime beaucoup travailler avec les aveugles, des acteurs aveugles. Je trouve ça très poétique aussi.
Parce qu'ils ont pas le même rapport au texte.
Non, c'est parce que je sais pas. C'est un dispositif visuel et eux, ils ont pas de vue.
Ouais.
Et j'adore faire des gros plans dans les yeux des aveugles.
Et du coup, c'est intéressant parce que est-ce que les personnes qui sont aveugles, je sais pas, c'est peut-être complètement préconçu ce que je m'imagine, mais comme il y a, est-ce qu'il y a pas, enfin, j'ai l'impression qu'ils auraient comme pas d'enjeu puisque ils vont pas voir le résultat, donc ils peuvent être que dans le
ressenti,
le corps, jeu. L'instant, le jeu, mais tu sais, c'est pas des fois, quand on joue un truc, on se dit « Ah ouais, ok, il faudrait que je fasse comme ça, parce que là, ça va donner ça, machin. » Mais du coup, si c'est du visuel, la finalité, eux, ils ont pas. Ils vont pouvoir entendre, bien sûr, mais sans voir les images du film, admettons. Du coup, ils doivent avoir un autre rapport à la chose, quoi. Ça doit être super... Enfin, est-ce que c'est en ça que c'est intéressant ou pas ?
Sûrement. 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 Après, je ne m'étais jamais posé cette question, mais c'est très intéressant. Mais après, je pense qu'ils ont envie, je ne suis pas aveugle, j'ai beaucoup de respect pour leur courage. Mais je pense qu'ils ont envie d'être comme les voyants et qu'on les voit comme des personnes normaux. Je pense que c'est ça. Mon souvenir le plus drôle, c'est qu'une fois, j'ai fait battre deux aveugles devant la caméra. Je sais pas, ça m'a fait bander.
Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé scéniquement?
Ils se sont battus et ça leur a fait rigoler et ça leur a plu. Je sais pas, j'aime bien, hein, c'est original.
Parce qu'en fait, ça déplace les choses à un autre endroit. Tu déplaces les choses à un autre endroit comme dans un rêve.
Ça doit faire tomber des pommes d'un arbre.
Ouais, c'est vrai, hein, c'est hyper onirique.
Et tes acteurs, ils en pensent quoi de ta poésie à toi?
Ils adorent, ils m'adorent. D'ailleurs, tous mes acteurs, sauf quelques rares cas, d'ailleurs, il y a une actrice qui ne m'a pas répondu encore s'il a vu le film ou pas. Et j'y pense souvent, je me dis, mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a un truc qu'il n'a pas aimé. Sinon, normalement, ça devient une famille. Et normalement, les personnages avec qui je jouais, ils rejouent comme Fellini avec Marcello Mastroianni. C'est mes acteurs fétiches. Ils deviennent la plupart des fois mes acteurs fétiches.
Trop bien. Et du coup, le regard de tes acteurs sur ton film, ou ta poésie, et le regard des spectateurs aussi, c'est quelque chose qui est important pour toi?
Ben, ça va sembler très prétentieux. C'est prétentieux ce que j'ai dit, mais quand je réalise quelque chose, je suis sûre que qui va regarder et qui va jouer va aimer.
Ok. Parce que t'es confort dans le fait que c'est par là que je dois. C'est comme si t'es confortable dans la direction que tu prends avec ce projet.
La direction et l'organisation de l'univers. En fait, plus qu'une direction, c'est la direction de l'univers, plus que dans la direction d'acteur. Parce que l'acteur, il est symbolique. Mes acteurs, ils les incarnent déjà ce qu'ils représentent. Et c'est l'univers, comme il est organisé, qui mis en place et filmé, qui va donner du sens.
Et parce que peut-être que c'est un caractère aussi authentique, qui laisse pas le choix à j'aime bien, j'aime pas, peut-être.
Tout à fait.
Et du coup, c'est là. Et après, bah, celui qui regarde, il se débrouille, quoi. T'as imposé ton style.
C'est ça.
T'as créé quelque chose qui devait être là, et en fait, la personne le spectateur va le regarder et va prendre l'œuvre d'art ou pas, selon si ça va lui parler, en fait. C'est aussi ça.
En tout cas, elle peut pas trop rester indifférent, je pense. Ouais.
Tu viens les bousculer?
Ça m'étonne pas, ouais.
Ben, je pense. Là, je lutte entre manque d'estime et trop d'estime, mégalomanie. Donc voilà, je pense qu'on a pu voir ça dans la conversation. C'est une lutte entre mes personnalités.
C'est une de nos ambivalences parfois. Mais si il y en avait pas ces ambivalences,
on ferait pas de ces débats.
Ouais. On ferait pas grand chose des fois. Ça nous motive.
C'est vrai.
Allez, on va clôturer doucement cette émission avec le mot de la fin. Et si tu devais donner un mot comme ça à la volée pour un seul mot pour définir ton rapport à la création, qu'est-ce que ce serait? T'as le droit de changer d'avis demain.
Tu peux répéter la question?
Si tu devais donner un mot comme ça, là, le premier qui te vient, pour qui représente ton rapport à la création.
Inconscient.
Inconscient. Inconscient, merci Ruby.
Mais du coup, c'était un peu conscient.
Merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
Et regardez mon travail sur rubycicero.com. Voilà, si je vous ai donné de la curiosité.
On n'y manquera pas, merci beaucoup. Et à bientôt sur les chemins de la création. Sur les chemins de la création.
Une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout, il y a ceux qui apportent seulement leur métier, et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime les choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça ?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste. Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.